En médecine, t'as une radiographie et c'est net. Je veux dire, on voit une fracture, c'est cassé ou ça l'est pas, tu vois.
Ouais, le diagnostic ressemble presque à de l'ingénierie en fait.
C'est exactement ça. Tu as cette ligne blanche sur le film noir, le médecin la pointe du doigt, et bam, on connaît la source de la douleur. Mais enfin, quand on essaye d'appliquer ce même regard ultra-binaire à un texte vieux de genre 3 millénaires,
Bah, la machine s'enraye, clairement.
mais complètement. Le diagnostic devient infiniment plus complexe, il y a des zones d'ombre partout, et l'image qu'on obtient est souvent beaucoup plus dérangeante que prévu. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument littéraire et spirituel absolu, le livre d'Ésaïe.
Absolument. Et pour nous guider dans ce paysage textuel hyper complexe, on va s'appuyer sur les travaux du docteur John Oswald. C'est un spécialiste qui a vraiment passé une grande partie de sa carrière à disséquer le premier chapitre de ce livre.
Et c'est un chapitre massif, non?
Ouais, totalement. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce texte n'est pas juste un document historique un peu poussiéreux. On l'appelle souvent le prince des prophètes.
Ah oui, c'est un titre assez lourd à porter, ça.
C'est clair, mais c'est parce qu'il agit comme un microcosme, genre un condensé de toute la théologie biblique. Et tout ça est formulé avec un langage métaphorique, d'une violence et d'une précision vraiment inouïes.
Par contre, le gros souci avec la littérature antique, c'est qu'on a perdu le contexte. Je veux dire, lire le premier chapitre d'Ésaïe, tout seul, en survolant les mots, c'est un peu comme trouver une vieille lettre froissée dans la rue.
Ah, j'aime bien cette image.
Mais tu vois, tu peux déchiffrer l'encre, comprendre la grammaire, mais tu sais pas qui l'a écrite, ni à qui, et surtout tu ne connais pas l'urgence qui a poussé l'auteur à écrire. Le vrai message te passe complètement au-dessus de la tête.
C'est super important ce que tu dis là. C'est même fondamental pour comprendre cette tradition.
C'est-à-dire comment?
En gros, contrairement à d'autres spiritualités antiques qui cherchent à s'élever au-dessus des réalités matérielles pour un idéal abstrait, le texte biblique, lui, affirme que la vérité se révèle dans le temps, dans l'espace et dans la géopolitique pure et dure.
Donc on n'est pas du tout sur des concepts éthérés dictés depuis le sommet d'une montagne.
Pas du tout. Le divin s'implique directement dans les crises internationales, les effondrements économiques, les guerres brutales de l'époque. C'est pétri dans la boue et le sang, quoi.
Ce qui nous amène à la situation de l'auteur. Il lance pas des idées en l'air, c'est une réaction de survie face à une menace d'extinction littérale. Parce que si on regarde la carte entre 739 et 701 avant notre ère, l'ambiance n'est pas joyeuse.
Ah bah, c'est la terreur absolue. L'Empire assyrien écrase tout sur l'horizon.
Et on parle pas juste d'une petite nation rivale. Pour utiliser une analogie moderne, la Syrie, c'est genre un énorme conglomérat monopolistique ultra-agressif. Ils font des rachats hostiles et détruisent tous leurs concurrents régionaux un par un.
La stratégie, c'est une machine de guerre implacable couplée à une guerre psychologique. Le but, c'est de briser la volonté de résistance avant même de lancer la première flèche.
Et la vraie cible de ce rouleau compresseur assyrien, en fait, c'est pas les petits royaumes de la région, c'est l'Égypte.
Exactement. L'Égypte, c'est le grenier à blé du monde antique. Contrôler la route vers le Nil, c'était asseoir une hégémonie totale sur le commerce mondial. C'est purement économique.
Et c'est là que la géographie devient un piège mortel pour le petit royaume de Juda et Jérusalem. Parce que la région de Canaan, c'est une toute petite bande de terre, genre 160 km de large.
Coincée entre la mer Méditerranée et le désert d'Arabie, ouais.
Voilà, en termes stratégiques, c'est l'équivalent antique du seul et unique poste de péage sur l'autoroute la plus importante du monde. Genre le seul péage sur l'autoroute des vacances en plein chassé-croisé.
C'est une super métaphore. Et c'est ce goulot d'étranglement qui avait rendu le royaume de Salomon si riche avant. Mais là, ça devient une malédiction. La Syrie ne peut pas contourner ce péage.
Ils sont obligés de passer au travers. Et la pression psychologique pour les habitants, c'est inimaginable. Il faut bien différencier la grande Assyrie de la petite Syrie voisine.
Ouais, la machine de guerre assyrienne descend du nord et dévore tout. La Syrie tombe, le royaume d'Israël au nord est anéanti. Les Philistins sont écrasés.
À Jérusalem, ils voient littéralement leurs voisins disparaître de la carte les uns après les autres. La panique est totale.
Du coup, la question qui se pose pour eux n'a rien de théologique ou d'abstrait. C'est, face à cette annihilation certaine, est-ce que faire confiance à Dieu a encore le moindre sens?
Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe de fou concernant l'écriture du livre. Le début du texte est ancré dans cette crise du 8e siècle. Mais quand tu avances dans la lecture, on change complètement d'époque.
Ouais. Vers la fin du livre, le texte s'adresse soudainement à des gens qui vivent 150 ans plus tard, pendant l'exil à Babylone.
C'est ça. On y promet une libération par l'Empire perse en 539 avant Jésus-Christ. C'est bien après la chute de la Syrie. Et honnêtement, je fais l'avocat du diable deux secondes. N'est-ce pas beaucoup plus rationnel de croire la théorie académique moderne ?
Celle de la multiplicité des auteurs ?
Ben ouais. Quand tu vois des changements de vocabulaire, de perspectives et des descriptions d'événements géopolitiques hyper spécifiques qui arrivent des siècles plus tard, on se dit que c'est une compilation sur 400 ans ou un comité de rédaction, non ? C'est plus logique d'imaginer un seul gars prédire tout ça.
C'est sûr que cette hypothèse repose sur des arguments très sérieux. L'analyse critique cherche toujours les différentes couches de rédaction. Mais, et c'est là que l'approche du docteur Oswalt est géniale, il apporte un vrai contrepoids à ça.
Qu'est-ce qu'il dit exactement ?
En gros, il souligne que refuser l'unité du texte, ça vient souvent d'un biais philosophique moderne très ancré. L'idée que toute prophétie est tout simplement impossible scientifiquement.
Donc si on part du principe que prédire l'avenir est impossible, on est intellectuellement obligé de découper le texte en morceaux pour que chaque partie colle à son époque.
Exactement. Mais Oswald utilise une blague assez marrante pour contrer ça, il dit. Tu connais la définition d'un chameau ? C'est un cheval conçu par un comité.
Ah lui, je la connais, celle-là.
Bah, il demande. À quand remonte la dernière fois qu'on a vu un tel chef-d'œuvre littéraire écrit par un comité sur 4 siècles ? Le texte a une cohérence de fou. Si on accepte de le lire comme une œuvre unifiée, le chapitre 1 prend une ampleur incroyable.
Alors, plongeons dans ce chapitre 1, parce que l'ouverture est vraiment magistrale. Le gars commence pas par un discours abstrait, il dit que c'est une vision qu'il a vue, pas juste des paroles entendues.
Ce qui n'est pas un détail. Une vision, ça engage tout ton être, tes sens, tes émotions. L'auditeur ne peut pas rester juste un spectateur passif.
Et la première scène, c'est carrément un tribunal cosmique. L'auteur convoque le jury. Mais au lieu d'appeler les rois voisins, il crie « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille ».
Le choix des cieux et de la terre comme jury, c'est brillant. Ce sont des témoins parfaits.
Ah bon ? Pourquoi eux ?
Parce qu'ils sont neutres et totalement obéissants. Les lois de la physique ne prennent pas de RTT. Le soleil ne va jamais se lever au sud juste pour voir ce que ça fait de briser les règles, tu vois.
Ouais, la nature est d'une constance parfaite. Et le contraste avec l'humanité juste après est dévastateur. L'auteur utilise une image agricole et Oswald relève l'ironie du truc avec le bœuf et l'âne.
Même un âne, qui est pourtant l'animal le plus têtu du monde antique, a au moins l'intelligence de savoir où est sa mangeoire et qui est son maître.
C'est clair. Et le coup de grâce du texte, c'est de dire « Israël, lui, ne le sait pas ». En gros, il dit qu'une nation entière est spirituellement plus stupide que son propre bétail. C'est d'une violence.
Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on analyse les 3 mots hébreux utilisés dans ce chapitre pour décrire cet échec humain. C'est pas juste une petite erreur.
Il y a une gradation, non ?
Ouais, une gradation effrayante. Le premier mot est traduit par « péché ». L'étymologie, c'est « rater la cible », genre un archer qui tire et qui, par maladresse ou à cause du vent, rate le centre. C'est presque un accident.
Ok. Donc ça, c'est pardonnable.
Voilà. Mais le deuxième terme, traduit par « iniquité », c'est différent. Là, c'est l'arc lui-même qui est tordu. C'est une torsion intérieure, une disposition profonde qui fait que la société va naturellement toujours rater la cible de la justice.
Ça devient un plus sombre. Et le troisième mot ?
La rébellion. Là, c'est insoutenable. Ce n'est plus l'archer maladroit ou l'arc tordu, c'est l'acte conscient de briser l'arc, de jeter la cible au feu et de refuser obstinément l'idée même qu'il existe des limites ou des règles.
Ouf ! Donc on n'accuse pas la nation d'avoir trébuché sans faire exprès, on l'accuse d'un rejet conscient, volontaire et agressif de toute autorité morale.
Et cette rébellion obstinée a des conséquences. Pour illustrer la ruine qui arrive, le texte n'est pas du tout abstrait. Il utilise l'image la plus pitoyable qui soit. Une cabane dans un champ de concombres.
Alors ça, j'avoue que pour nous aujourd'hui, c'est super étrange. Pourquoi une cabane à concombres pour parler de la chute d'une nation face à la Syrie ?
C'est hyper culturel. À l'époque, on ne vivait pas dans des fermes isolées au milieu des champs. Pour se défendre, les villages étaient regroupés et fortifiés sur des collines. Les champs étaient en bas, dans les vallées.
Donc ça faisait des sacrés trajets pour aller récolter tous les matins ?
Exactement. Du coup, pendant les récoltes d'été, pour gagner du temps, les familles construisaient des petits abris de fortune en branches, au milieu des champs. Juste de quoi dormir.
Un petit campement d'été, quoi.
Ouais, mais à l'automne, une fois la récolte finie, tout le monde retournait au chaud, dans le village fortifié. Et ces petites cabanes fragiles étaient abandonnées dans les champs.
Et avec l'arrivée de l'hiver, les pluies glaciales, les vents, les cabanes s'effondraient, j'imagine.
C'est ça. Imagine l'image, ambiance. T'es tout seul, au milieu d'un champ boueux sous une tempête d'hiver, à regarder ta cabane en branches pourrir et s'effondrer. C'est l'isolement et la vulnérabilité absolue. C'est exactement l'état de la nation face à l'armée assyrienne.
Ce niveau de dénuement est fou, surtout quand on le contraste avec les titres donnés à Dieu juste à côté. On l'appelle le Seigneur des armées célestes et surtout le Saint d'Israël.
Et ce terme de saint, il faut vraiment s'y arrêter. Parce qu'aujourd'hui, notre vision de la sainteté est complètement biaisée par des images de petits vitraux inoffensifs.
Alors que dans le monde païen antique, ça voulait dire quoi?
Les dieux païens étaient des personnifications des forces brutales de la nature. Et la nature, elle n'a pas de boussole morale. Un tremblement de terre, c'est ni gentil ni méchant, c'est juste destructeur.
Donc un dieu saint, pour eux, c'était juste un dieu hyper puissant qui pouvait être super cruel. Tant qu'il avait le pouvoir, il était saint.
Exactement. Il pouvait exiger des sacrifices humains et rester saint, parce qu'il n'y avait aucune notion d'éthique. Mais la révolution théologique d'Ésaïe, c'est que le dieu biblique est totalement autre.
Autre dans quel sens?
Dans sa qualité d'être. Ce qui le sépare, c'est sa pureté morale absolue. Sa sainteté n'est pas un pouvoir capricieux, c'est la convergence totale de l'amour, de la justice et de la vérité.
Et c'est cette collision entre ce Dieu moralement parfait et une nation corrompue qui donne une scène incroyable. Face à l'invasion assyrienne, le peuple panique et il multiplie les rituels religieux.
Ils amènent plus de sacrifices, font de grandes fêtes solennelles, en pensant apaiser Dieu.
Mais Dieu est littéralement écœuré. Il dit... « Qui vous a demandé de venir piétiner mes parvis ?» Il déclare qu'il ne supporte plus l'iniquité couplée à l'assemblée solennelle. C'est de là nausée divine pure et simple.
Parce que dans le paganisme, le rituel c'est un pot de vin. Tu donnes un animal au dieu pour qu'il ferme les yeux sur tes magouilles.
C'est comme vivre comme un diable du lundi au samedi, écraser ses employés, exploiter les plus pauvres, et le dimanche matin, mettre ses beaux habits à l'église en pensant que Dieu est flatté par nos chants. C'est une hypocrisie ridicule.
Totalement. Et puisque cette manipulation par la religion de façade est rejetée, Dieu annonce quelque chose de terrifiant. Il va se retourner contre son propre peuple.
C'est ça l'idée du jugement. C'est de la vengeance.
Non, et c'est souvent mal compris. L'auteur utilise l'image de la métallurgie. Il dit que Dieu va agir comme un feu extrême, avec de la lessive, pour séparer le métal précieux des impuretés.
C'est le principe du creuset. Le but n'est pas de tout détruire.
C'est un acte chirurgical. Le choix n'est pas entre être sauvé par magie ou être anéanti. Le vrai choix, c'est soit on laisse la corruption interne nous détruire à petit feu, soit on accepte la douleur d'un jugement purificateur pour rendre une restauration possible.
Ce qui amène un symbole très fort à la fin, non?
Oui. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on trouve l'image des arbres, les chênes majestueux.
Ce que les païens vénéraient.
Exactement. Ils symbolisent la fierté humaine, le pouvoir enraciné, l'arrogance. Ces arbres seront coupés à la racine. Mais au milieu de la destruction, il y a une promesse.
Laquelle?
De la souche coupée et brûlée, Dieu fera jaillir de nouvelles pousses. Pour ceux qui acceptent d'être brisés, ils deviendront de nouveaux chênes de justice.
Mais attention, l'avertissement d'Oswald est clair là-dessus. Il n'y a pas de laissez-passer gratuit. Les promesses de restauration sont spectaculaires, mais elles sont conditionnées à la repentance.
Le tribunal cosmique ne se laisse pas avoir par une belle façade.
C'est clair, et ça nous pousse, nous aussi, à réfléchir, même si on n'a plus l'armée assyrienne à nos portes. La nature humaine n'a pas changé. Ce qui me donne envie de poser une question à ceux qui nous écoutent, quelles sont nos propres cabanes dans un champ de concombres aujourd'hui?
Nos illusions de sécurité, quoi.
Exactement. Quels sont ces rituels de façade, que ce soit notre productivité frénétique, notre statut social ou la vertu qu'on affiche publiquement, qui cachent en fait des fondations qui s'effondrent? Quand la tempête frappera, est-ce qu'on s'accrochera à une façade pourrie ou est-ce qu'on acceptera d'affronter nos propres fractures pour pouvoir enfin renaître?